Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! L'épisode vous est proposé en partenariat avec Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable qui reverse 100% des bénéfices à l'Action pour le climat, dont 80% pour financer des projets de reforestation situés dans des zones critiques de biodiversité. Pourquoi vous parlez d'Ecosia ? Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce podcast, on parle d'initiatives qui contribuent à un monde meilleur. Donc si vous cherchez une idée de geste green toute simple à mettre en place et qui a un impact concret, pensez à Ecosia. Toutes les 45 recherches, c'est un arbre qui est planté. Allez simplement sur Ecosia, ecosia.org, et mettez-le en moteur de recherche favori ou installez-le sur votre smartphone. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Communautaire, place à la cosmétique pour hommes avec Adrien Savelle, monsieur communication et co-gérant de Into the Beard. Bonjour Adrien, bienvenue sur le podcast.
Salut Pauline, comment vas-tu ?
Très bien, merci beaucoup. Et toi ?
Ça va, merci. Un peu froid, hein ?
Un peu froid. On va en reparler. Vous êtes logé dans les Alpes. Into the Beard, c'est une marque de produits naturels pour la barbe, bio, fabriquée donc artisanalement dans les Alpes. Et outre la production française, c'est une marque qui adopte une démarche responsable pour avoir un maximum d'impact. Mais tout ça, tu sauras mieux le raconter que moi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Eh bien, comme tu l'as dit, je suis Adrien Savelle, j'ai 29 ans, je suis co-gérant et monsieur communication de la société Into the Beard. Et comme tu l'as dit, on est basé en Haute-Savoie, à Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont-Blanc. Donc c'est ce qui est un cadre de vie qui est pas trop mal, assez agréable. Et donc nous, bah voilà, on fait des cosmétiques pour hommes. Donc aujourd'hui, on développe, on en produit un peu, mais ça je dirai plus tard. C'est un petit teasing, on va dire. Et on vend, du coup, nos produits soins de la barbe et rasage à l'ancienne à des professionnels, mais aussi à des particuliers qui souhaitent prendre soin d'eux. Parce que maintenant, aujourd'hui, tout ce qui est cosmétique homme, ça commence à prendre de l'ampleur. Et les hommes commencent à avoir de plus en plus de produits dans la salle de bain. Donc, c'est plus réservé aux femmes maintenant. C'est un peu pour les deux, on va dire.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans l'univers de la cosmétique ? Est-ce qu'auparavant, ton parcours t'avait déjà amené à travailler dans cet univers-là ?
Alors absolument pas. Mon parcours, il est assez atypique. On va dire que Into the Beard, c'est mon premier boulot. Yann, qui est mon associé, qui est aussi co-gérant et qui s'occupe de toute la production des produits, était en Australie il y a quelques années. Et il s'est poussé la barbe, ça commençait à être la tendance. Il est rentré d'Australie et il était à la recherche de produits cosmétiques, naturels et bio pour lui. Il n'arrivait pas à trouver ce qui lui plaisait, surtout du made in France. Et il a commencé à se lancer dans sa cuisine, à faire des huiles, à faire des baumes. C'est tout simplement de la cuisine, des produits cosmétiques. Donc il a fait tout ça tout seul chez lui. Et quelqu'un lui a dit, vas-y, lance-toi. Et il avait besoin de... comment dire, de quelqu'un qui touchait un petit peu au digital, à la communication, à la création de marque et tout. Donc, naturellement, il est venu vers moi, parce que Yann, il faut savoir que c'est mon meilleur ami, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et un dimanche soir, il m'appelle pour savoir si ça m'intéressait de partir avec lui dans cette aventure. J'étais encore en études, j'étais encore en master, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut faire un petit travail supplémentaire pour améliorer mes skills, on va dire. Et après, on a développé tout ça, doucement, mais sûrement. Et puis, arrivé premier confinement en mars 2020, on s'est dit, chacun de notre côté. J'étais sur Lyon à l'époque, lui était en Belgique. Et on s'est dit, vas-y, pourquoi pas, il y a quelque chose à faire. Faut qu'on lâche tout, le travail, etc. Moi, j'étais freelance à côté quand même. Et on a tout plaqué, on est parti en Haute-Savoie. Là où est venue la genèse de Into the Beard. Et tout plaqué, on est arrivé en Haute-Savoie tout seul. Lui, il est arrivé avec sa femme et son enfant. Moi, je suis arrivé avec mon chien. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à se développer. On a fait un premier exercice compliqué avec le Covid. Et puis après, là, on est sur le troisième exercice. Mais on voit vraiment, il y a une énorme différence dans le comportement des particuliers, mais aussi des professionnels dans la consommation de cosmétiques bio et naturels. Donc là, on est sur une très bonne lancée. On est super content. On a des beaux projets qui vont arriver. Et voilà, c'est l'histoire a démarré d'une cuisine d'un type qui voulait des cosmétiques pour lui, quoi.
Bon, il y a plein de sujets qu'on va creuser tout au long de l'épisode. Ouais. Pourquoi vous êtes installé en Haute-Savoie? Qu'est-ce qui vous a motivé à partir sur cette région-là? Est-ce que c'était déjà lié à la possibilité de faire fabriquer les cosmétiques? Comment a été décidé ce point de chute?
Nous les deux, on est jurassiens de base, donc on a un petit peu des montagnes, on a un peu de nature et tout. Et on est des amoureux de grands espaces. Et donc Yann, il y a eu l'inspiration de faire des produits. On a trois gammes qui se distinguent avec des univers olfactifs différents. Et ça rappelle beaucoup la montagne. On a une gamme altitude qui est fraîche, qui fait genre une grande respiration d'air frais. On a une gamme qui est forest, où là, c'est une balade en forêt, une gamme héritage, où là, c'est plus du cocooning avec un vin chaud au bord du feu. Et je sais pas pourquoi. C'est Yann qui a décidé de faire ces univers-là, qui sont très bien, qui fonctionnent très bien. Et ça semblait logique d'être inspiré de la montagne et de vivre dans la montagne, en fait. Et la Haute-Savoie, c'est aussi une pépite en termes d'artisanat, où nous, on travaille beaucoup avec des articles zéro déchet. Et on travaille avec des tourneurs sur bois qui sont de Savoie et aussi de Haute-Savoie. On avait notre fournisseur de savon, il est de Haute-Savoie aussi. Et au départ, nos produits sont fabriqués dans un laboratoire qui est, lui, en Savoie. C'est quand même assez important de dire qu'on est Made in the Alps, qui est une tagline qui apparaît sur notre logo. C'était important d'être à fond dans ce sujet-là, dans cet univers qui est les Alpes françaises. Donc, ça semble être totalement logique d'aller ici. Mmh. Et la première réflexion qu'on a eue quand on a créé l'entreprise, c'était il faut faire attention à l'environnement. Et on est parti direct avec One Person for the Planet, qui est une association, je sais pas si tu connais, One Person for the Planet.
Ouais, tu peux peut-être le rappeler pour nos auditeurs, c'est intéressant.
C'est une association qui travaille avec beaucoup d'associations qui œuvrent sur des actions environnementales. Et en fait, nous, on s'engage à verser 1% de notre chiffre d'affaires à cette association ou à choisir une association de notre choix qui est du coup fait partie de 1%. Et du coup, nous, on est parti sur Mountain Riders, qui, eux, œuvrent sur la protection des montagnes, sur tous les massifs français. Ça semblait important pour nous. Voilà, exactement. Et eux, ils font beaucoup de prévention via des actions de, par exemple, la collecte de déchets dans les montagnes, surtout l'été. Et c'était clairement logique pour nous de partir avec eux. Et parce qu'en plus, quand on regarde, nous, aujourd'hui, la fonte des neiges, c'est pas le premier... c'est pas la première cause du réchauffement climatique, mais presque, quand même. Nous, on le voit tous les jours.
Ou en tout cas, un signe visible, ouais.
Voilà. Et ça se voit, nous. L'année dernière, on a eu une saison incroyable. Et là, cette saison, elle est un peu plus... C'est un peu plus compliqué, on va dire. Est-ce que c'est lié à ça? On ne sait pas et tout. Enfin, quand même, si. Mais pour nous, c'est important de participer un petit peu à notre petite échelle, à cette grande cause du réchauffement climatique où il faut lutter contre ça. Et on essaye, via 1% for the Planet, de limiter tout ça, quoi.
Et alors, les usines de fabrication, elles sont donc aussi en Savoie?
C'est ça. Alors, usine, c'est un grand mot, quoi. Nous, on travaille avec un producteur à façon.
Un atelier, peut-être, alors ?
Ouais, exactement. C'est un laboratoire artisanal où ils sont trois à l'intérieur. Ils sont trois, ils ont des machines semi-automatiques. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est nos formulations, c'est nous qui choisissons la matière première, et du coup, on la livre au producteur, et c'est le producteur qui va appuyer sur le bouton, et puis après, produire via notre processus. Aujourd'hui, voilà, on souhaite, on va arrêter petit à petit avec ce producteur pour qu'on puisse avoir, nous, bah, du coup, maintenant, notre propre laboratoire. On est labellisé Cosmé Bio depuis mars 2021, ce qui est pour nous aussi une étape importante dans tout ce qui est, bah, de cosmétique responsable. Et là, aujourd'hui, on va avoir dans 2 semaines, je crois, ouais, Cosmé Bio qui vont venir chez nous, dans notre futur laboratoire, et ils vont regarder un petit peu, bah, d'où vient toute la matière première, comment le processus de fabrication est fait, si nous, en termes, en normes hygiéniques, etc., on est aux normes et tout. Donc, c'est une étape de plus dans la cosmétique, dans la production de cosmétiques responsables.
Et comment a été faite la formule ? Est-ce que ça a nécessité beaucoup de temps pour trouver la formule parfaite, celle qui est...
Il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu beaucoup d'échecs, je m'en rappelle Yann qui m'envoyait...
C'est long, ouais, ça a été long.
Bah, en fait, ouais, on arrive... Tu sais, tu mets... Il faut trouver le bon dosage. Par exemple, on a notre gamme héritage, il y a de la cannelle à l'intérieur. La cannelle, il faut trouver le bon dosage parce que soit c'est trop fort, soit c'est pas assez prononcé. Et je me rappelle Yann qui m'envoyait par la poste des produits, des échantillons, et du coup on essayait à chaque fois et on faisait des remarques. Bah, il y a un peu trop de lavande, il y a un peu trop de titri, il y a un peu trop d'huile de ricin. Ça a mis du temps. Yann a eu l'idée, je dirais en 2016, et nous on a créé du coup l'entreprise en 2019.
D'accord.
Donc, Il y a eu des échecs, il y a eu trouver le bon univers, le bon storytelling, tout ça, ça a été un petit peu long parce que lui il travaillait à temps plein en tant qu'ingénieur, moi j'étais dans mes études, j'étais en alternance à côté, donc je devais déjà rendre des comptes à quelqu'un. Donc le créneau travailler à partir de 20h et tout le week-end, c'était pas suffisant pour vraiment avancer. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps aussi.
D'accord. Et alors, les ingrédients, ils viennent tous de France ?
Alors, c'est un peu compliqué. Yann fait très attention. Il fait très attention d'où vient la provenance des produits. Il y a des produits qui viennent du Maroc, etc. Les huiles essentielles, c'est très compliqué en France. Mais aujourd'hui, on a peut-être trouvé quelqu'un qui est en Haute-Savoie, qui récupère des arbres... les arbres coupés, et qui récupèrent les huiles à l'intérieur, enfin, ils vont en faire des huiles essentielles, de sapin, etc. Et ça pourrait être aussi sympa de faire dans nos prochains produits une huile 100%, avec des huiles essentielles 100% françaises. C'est peu répandu, ça, encore. Mais après, le reste des produits, c'est tout du bio, tout du naturel. Ça demande énormément de recherche.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une liste d'ingrédients qui est assez courte au final.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'alcool. On met pas de cochonnerie à l'intérieur. On a la base végétale qui est naturelle et bio. Et les huiles essentielles, les senteurs, il y en a deux ou trois par gamme. Ce qui évite quand même d'avoir quelque chose après qui sente trop fort ou. Tu vois, si une personne, elle aime bien prendre soin d'elle et derrière mettre un petit parfum. Et si on commence à mettre trop d'huile essentielle, si on commence à mettre des cochonneries, ça va tout se mélanger, c'est plus agréable pour la personne. Et après, pour nous, on perd en crédibilité pour proposer quelque chose de juste, de responsable. Moi, malheureusement, je ne peux pas lui donner un coup de main à Yann, c'est lui qui gère tout ça, mais je le vois se tirer les cheveux. Auprès des fournisseurs pour trouver le produit naturel, le produit bio, quoi. C'est beaucoup de travail en amont, mais après, quand on a les bons fournisseurs c'est des fournisseurs français qui se fournissent à l'étranger, mais c'est compliqué de trouver les huiles essentielles en France.
Et en l'occurrence, vous fabriquez uniquement des produits qui sont solides ?
On fait des produits solides et on les fait nous-mêmes aujourd'hui. On fait des savons all-in-one, cheveux, barbe, ouais. Visage,
corps. Parle-nous un peu de la gamme, justement, savoir ce qu'on peut retrouver sur le site.
Alors, sur le site, vous pouvez retrouver tout ce qui est soin de la barbe. Donc, on a des huiles et des baumes. Ça, c'est pour l'entretien de la barbe. C'est un produit typique que tu peux retrouver chez un barbier, chez un coiffeur, mais aussi des concept stores ou les magasins bio, puisqu'on est labellisé bio. On a toute une gamme rasage à l'ancienne. Donc, rasage à l'ancienne, pourquoi ? C'est parce qu'on voulait retrouver, comme le temps des grands-parents, le rasage avec le blaireau, le bol de rasage, le savon solide, et couper ensuite avec un rasoir à l'ancienne, un coupe-choux, par exemple, ou un rasoir à lame. Non pas les lames gilettes, mais on essaie de trouver des lames jetables pour les... qu'on appelle ça ? Des rasoirs de sûreté, par exemple. Et à côté, on a toute une gamme de zéro déchet. Donc zéro déchet, on va avoir des savons pour le corps, on va avoir des savons pour le rasage. Et on va avoir tout ce qui est entretien de la barbe avec des brosses made in France. On va avoir des peignes qui sont faits à côté de chez nous, à Cluses, qui sont des peignes en bois. On a la fameuse pierre d'Alain qui est faite en Rhône-Alpes. Et puis, on est en transition pour passer sur des blaireaux qu'on a faits en Allemagne. C'est très compliqué de trouver en France. Mais du coup, là, on a réussi à faire, à avoir un tourneur sur bois qui va nous faire un manche en bois. Le tourneur, il est en Haute-Savoie. Et les poids de blaireau, on les a pareil trouvés en France. Poids de blaireau vegan, qu'on a trouvé en France. Et du coup, on va pouvoir faire un produit made in France, le blaireau de rasage français. Ça va être bien, ça. Et on sera presque une marque 100% française. Ce qui peut être un peu compliqué, j'ai l'impression. Si on veut avoir, comment dire ça. C'est compliqué de trouver d'avoir une gamme entièrement made in France. Parce que le made in France peut être très cher. Et il faut que nous, on puisse s'y retrouver et que le client final puisse se retrouver aussi. Parce que après,
oui,
c'est...
il faut proposer une gamme abordable aussi pour.
Exactement.
Pour démocratiser.
Exactement, c'est ça.
Le bon pricing, quoi.
Clairement. Exactement.
Mais dans tous les cas, vous avez quand même une part importante qui est, bon, déjà, une attention particulière à la composition
Exactement.
Des ingrédients, mais aussi et surtout la fabrication, le fait d'avoir une fabrication qui soit locale, dans un atelier artisanal, et aussi, du coup, un savoir-faire et un emploi qui est créé localement. Bon, le Made in France, c'est pas forcément qu'une question d'ingrédients, mais c'est aussi une question de fabrication.
C'est ça. C'est ça. On fait... C'est logique. Aujourd'hui, tout le monde veut. Non, oui et non. Mais beaucoup de gens veulent du Made in France. Surtout, j'ai l'impression, depuis le premier confinement, où en fait, tout le monde a commandé sur Internet. Et ouais. Nous, on a remarqué, c'est à partir du premier confinement qu'on a commencé à se lancer sur notre site Internet, par exemple. Une énorme tendance du Made in France. Et aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui créent des services ou des produits Made in France. Et c'est la nouvelle tendance qui, j'espère, va rester le plus longtemps possible ici. Et voilà, j'espère que... C'est important de proposer du Made in France, de l'artisanat. Et c'est pour ça que nous, on souhaite être indépendants, travailler avec des acteurs locaux de Haute-Savoie et Savoie. Ou de Rhône-Alpes aussi, c'est bien. Et c'est très important pour nous, proposer tout ça.
Et alors toi, ton rôle, donc, il est plus lié à la communication qu'à la formulation.
Exactement.
Tu disais qu'il y avait un engouement certain pour les achats sur Internet de manière générale, peut-être un retour aussi aux produits plus naturels avec cette pandémie qui a quand même posé des questions sur la manière de consommer. Quels sont, toi, tes challenges et comment on arrive à faire connaître Into the Beard?
C'est compliqué parce que quand on regarde aujourd'hui les cosmétiques pour hommes, ça a explosé d'un coup, j'ai l'impression, sur le marché français. Et même sur le marché français avec des entreprises françaises, mais aussi des entreprises étrangères qui se développent quand même plutôt bien en France. Et c'est compliqué quand même de se faire de faire sa place sur ce marché qui est encore un marché de niche, j'ai l'impression. Mais sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qui marche bien, bah, c'est être transparent, c'est être honnête avec ses clients, c'est d'avoir un SAV qui est assez réactif, on va dire, et très honnête. Nous, sur nos fiches produits, on explique d'où viennent les produits, c'est du made in France, c'est du made in Germany pour certains accessoires. Et après, on essaie de sortir un petit peu du lot. Chaque marque, on va dire, a sa propre image. La nôtre, c'est les Alpes. On veut transporter les gens dans les Alpes à travers le storytelling, à travers les photos qu'on prend pour les réseaux sociaux. Tout ce qui est notre site internet, pareil. On veut faire voyager la personne, de part avec les produits des senteurs, mais aussi avec l'image de marque. Et je pense que ça marche plutôt bien parce qu'on a des avis sur le site internet qui disent que c'est une vraie balade en forêt, c'est une bonne grosse bouffée d'air frais, ou des pros qui nous disent les gens raffolent de vos produits parce que c'est un voyage constant dans les Alpes alors que la personne est à Paris, par exemple. Et ça a été gratifiant pour nous parce que c'était... La première chose qu'on voulait faire, c'était faire voyager les gens. Et quand tu as les gens qui viennent vers toi, les pros et les particuliers qui disent que c'est une véritable balade en forêt, ça fait plaisir. Je pense que l'objectif, il est atteint. Mais il ne faut pas se reposer que sur ça, parce qu'il y a clairement il y a des gros sur le marché, comme par exemple Sarah Barbet ou une autre marque qui s'appelle Bivouac. Ils sont sur le marché depuis 2015-2016, je dirais. Nous, on est arrivé en 2019, mais je pense qu'on est loin d'être ridicule. Quand on voit notre explosion, là, notre développement aujourd'hui, on a trouvé le bon créneau, on a trouvé la bonne image de marque. Il faut qu'on reste dessus et continuer dans ce sens-là. Et étoffer un petit peu toute notre gamme, tout en ayant les mêmes valeurs, tout en ayant la même image, et répondre à d'autres besoins. Un besoin que certains particuliers ont, mais surtout un besoin que nos clients pro barbershop ont aussi. Donc c'est notre but aussi de répondre à ces besoins-là, tout en faisant attention à notre démarche, à notre développement, etc.
Alors tu le dis, tu as donc vous avez deux types de cibles, donc le B2C, donc les particuliers, et aussi l'univers professionnel. Sur l'univers particulier, tout d'abord, quelle est votre cible? Est-ce que ce sont plutôt les hommes qui s'achètent des produits de soins pour eux, pour entretenir la barbe, ou d'ailleurs les femmes qui en profitent pour faire un cadeau? Est-ce que du coup la cosmétique, c'est vraiment une notion de, enfin voilà, est-ce qu'il y a une question de genre? Est-ce que du coup c'est plutôt réservé aux femmes et les hommes s'y mettent petit à petit, ou est-ce que c'est plutôt les femmes qui sont initiatrices de ce genre de soins et d'achats et qui du coup embarquent leur conjoint dans cette aventure?
Il y a deux écoles, je dirais. Tout au long de l'année, on va avoir beaucoup d'hommes qui vont commander sur le site, mais quand tu vois par exemple à la Saint-Valentin ou à Noël, ça va être que des femmes. Ça, quand on regarde nos,
les cadeaux,
nos...
quoi.
Voilà, exactement. Mais à Noël dernier, on a eu un pic de commandes avec beaucoup de femmes. On proposait des coffrets et beaucoup de femmes, ouais. Et c'est marrant parce que tout le long de l'année, c'est beaucoup d'hommes. Et lorsqu'il y a une fête, là, il y a les femmes et du coup, on doit personnaliser le mot différemment. C'est marrant, ça, que il y a un pic à chaque fête. Je ne saurais pas pourquoi l'expliquer, mais c'est comme ça.
C'est les notions peut-être des périodes plus propices aux cadeaux. Et du coup, c'est vrai que...
Les cosmétiques hommes, c'est très saisonnier, j'ai l'impression. Tout le long de l'année, on va quand même avoir des commandes, mais voilà, comme je t'ai dit, beaucoup d'hommes. Et puis, dès qu'il va y avoir une fête, là, un pic de femmes. C'est ça, c'est un cadeau. Offrir un cadeau responsable, original, parce que aujourd'hui, ouais, je trouve que c'est assez original d'offrir un coffret de cosmétiques hommes. Et on a une boutique chez nous, enfin on a un bureau à Saint-Gervais avec deux grosses vitrines qui donnent sur la rue, et du coup on laisse la porte ouverte pour que les gens viennent acheter des produits. Et ce qui est marrant, c'est quand on voit les couples qui rentrent et qui sentent tes produits, et c'est souvent la femme qui va décider quelle senteur l'homme va choisir.
D'accord.
Parce que c'est important aussi de... Parce que forcément, madame, elle va l'embrasser, etc., lui faire un bisou.
Ouais, tout à fait.
C'est ça. Et non, c'est cette tendance-là sur le site internet, c'est marrant.
Et est-ce que vos clients sont beaucoup basés dans votre région ou au contraire, vous arrivez vraiment à capter et emporter, comme tu disais tout à l'heure, les Alpes un peu partout en France?
On a une centaine de revendeurs en France. On a forcément une concentration en Haute-Savoie et Savoie, parce qu'on a la chance quand même de pouvoir se déplacer, d'aller faire du porte-à-porte, mais après, on ne va pas faire partout en France, donc c'est beaucoup de phoning. Et la communauté des barbershops, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, il y en a un, si le produit plaît à quelqu'un, il ne va pas hésiter à dire à ses collègues, tiens, je connais cette marque, elle est vraiment pas mal, tu devrais essayer. Et c'est comme ça qu'on se fait contacter pour faire des partenariats avec eux. On essaie de les atteindre via des salons, puisque maintenant, on peut reprendre des salons professionnels. Donc, c'est un bon moyen aussi de toucher cette cible. Mais on essaye d'être plus présent en France, tout en faisant attention quand même. On ne veut pas, s'il y a un barbier et puis un concept store qui sont l'un en face de l'autre. Voilà, ça ne semble pas logique d'avoir ces deux points de vente. On essaye toujours de trouver un barbershop qui a un certain standing quand même, qui a certaines valeurs. Les concept stores, c'est pareil. Après, les concept stores, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont 100% français, qui souhaitent des produits responsables dans leur boutique. Donc ça, forcément, nous, on rentre dedans facilement. Et d'ailleurs, ça sera un autre sujet, mais j'ai l'impression que les concept stores, il y en a vachement qui ont poussé, après le confinement, tout ce qui est 100% français... produits responsables.
Ouais, c'est une tendance un peu plus générale, oui, clairement. Mm.
Et ça, je pense que ça implique aussi le fait que maintenant, les gens, ils veulent du français. Donc, nous, on est clairement dedans. Là, c'est le bon créneau, on va dire. C'est encore un marché de niche, mais voilà. Il y a quand même un attrait pour ce genre de produit.
Et alors, pour finir sur les circuits de distribution, donc vous êtes aussi, vous distribuez via les professionnels, via des barbershops, du coup, est-ce que c'est une ancienne ciblée ou est-ce que c'est plutôt n'importe quel type de barbershop, pour savoir si c'est du coup un nom d'enseigne ou si c'est ouvert un petit peu à tous, et ou chez des coiffeurs peut-être, ou enfin, parle-nous un petit peu de l'univers professionnel également, et savoir si ce sont des produits qu'ils utilisent eux ou si ce sont des produits qui sont mis à la vente dans ces univers-là.
Alors pour les barbershops, on a barbershop et coiffeur, on a développé une gamme d'huile à barbe en 100 ml. Nous aujourd'hui nos produits sont en 30 ml pour les particuliers et pour les professionnels ils sont en 100 ml parce que ils utilisent beaucoup nos produits pendant leurs prestations.
D'accord.
Donc en fait, ils vont utiliser le produit et le client va déjà sentir le produit, il va voir que le produit fonctionne bien, etc. Et à la fin, le barbier peut lui revendre du coup un 30 ml à son client. Et le fait d'utiliser nos produits lors des prestations, ça permet de montrer le produit comment il est. Et forcément, à la fin de la prestation, tu vas repartir avec ton produit.
Et la preuve par l'exemple, quoi.
Voilà. Et les barbiers, c'est nos meilleurs clients forcément parce qu'ils utilisent nos produits, alors qu'un concept store. Le concept store, il n'est pas forcément professionnel dans ce domaine-là. Il va peut-être moins mettre en avant le produit. Les gens, ils vont juste pouvoir le sentir avec le testeur. Et c'est une autre approche. Ça fonctionne. On est dans quelques concept stores quand même. Même si, je dirais, 60%, 70%, c'est des barbiers. Mais ça marche petit à petit dans les concept stores. Mais les barbiers, il n'y a aucun... Voilà, c'est tout à fait normal puisqu'ils travaillent avec nos produits. Donc voilà, le client, il sait déjà quoi... Il sait ce qu'il va acheter, on va dire. Il a déjà utilisé lors de sa presta et il repart avec et voilà.
Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un univers qui reste assez concurrentiel. Enfin, quelle est ta perception de la concurrence? Tu disais que c'était un segment qui commençait à avoir, qui commençait à prendre de l'ampleur, qui mm-hmm. commençait à avoir plus d'importance aussi sur la cosmétique bio, sur le Made in France. Quel est ton regard, toi, par rapport à la concurrence?
Chaque concurrent, on va dire, ils ont leur univers à eux. Donc nous, on arrive à se détacher d'eux avec le nôtre. Et on a voulu être beaucoup plus différent en ayant le label Cosmé Bio. Je dirais qu'on est les seuls à faire du full barbe et du rasage en étant labellisé bio. Les autres ne le sont pas. Donc ça veut dire que c'est un gage de qualité pour nous. Les barbeurs commencent à être de plus en plus adeptes de ça, des produits bio et des produits naturels, chose qui n'était pas à l'époque. Donc je pense que c'est là on arrive à se différencier un petit peu comme ça des concurrents. Et pour vraiment encore se différencier des concurrents, on souhaite développer une nouvelle gamme de produits que personne n'a fait encore aujourd'hui. C'est les coiffants. Des coiffants naturels et bio, c'est super compliqué. Yann, il est encore en train de se tirer les cheveux, décidément, le pauvre. Mais si on arrive à développer ça, on va complètement se démarquer des concurrents et atteindre, non pas une nouvelle cible, mais pouvoir rentrer plus facilement chez des barbershops. Parce qu'un barbershop qui a déjà une marque depuis 2016, on va dire, c'est très compliqué de lui faire changer d'avis des fois. On lui fait sentir les produits, on lui fait tester, etc. Mais lui, il va dire, moi, ça fait depuis des années et des années que j'ai telle marque, j'ai pas forcément envie de m'en détacher. Ce qui est normal, mais on arrive à se faire une petite place maintenant. Et on est aussi à côté de notre gros concurrent. Sur les présentoirs, et puis le barbier il va justifier en disant là c'est tel univers et l'autre c'est un autre univers, c'est des produits complémentaires, c'est les mêmes certes, mais les senteurs sont complètement différentes, l'image de marque est complètement différente, l'approche aussi, et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à se différencier des concurrents, mais vraiment c'est aussi grâce à Cosmé Bio.
D'accord, et donc Cosmé Bio certifie quoi? Que c'est quasiment, que c'est plus de 99% des produits qui sont bio, c'est 100%. Quelle est finalement la traduction de ce label?
Cosmé Bio, alors là, ça serait plus Yann qui pourrait sortir des beaux chiffres. Mais,
en tout cas, qui certifie l'origine bio des produits.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est une certification, quoi. C'est pas juste dire on est bio et c'est tout.
Non, 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 non. On a eu un audit où ils ont regardé les ingrédients, la liste des ingrédients, la provenance des ingrédients. Donc là, nos huiles et nos baumes, ils sont à 99,7% d'origine biologique. Donc ça a été, du coup, checké par l'audit Cosmé Bio. On va bientôt avoir un nouveau audit pour le laboratoire, mais aussi pour les nouveaux savons que Yann est en train de faire. Enfin, il regarde toute la provenance des produits, en fait, des ingrédients. Si c'est un fournisseur responsable, si c'est quelque chose de éthique, de durable, etc. Donc ouais, je pense que je peux dire que ça sur le Cosmé Bio. Je suis mauvais.
Non, mais c'est déjà intéressant de mettre en lumière ce type de label qui n'est pas forcément encore aujourd'hui très répandu. Je pense qu'on ne peut que constater que le bio, la mention bio écrite en tant que telle, elle est présente un peu partout, mais qu'après, il y a quand même une vraie certification. Et ça, c'est pas encore quelque chose qu'on retrouve.
C'est ce qui nous a fait un peu balancer, parce qu'il y a différents labels. Et puis Cosmé Bio, en fait, c'était vraiment l'approche humaine sur... Enfin, l'approche humaine. Il y a les gens, ils viennent, et ils regardent vraiment de la provenance du produit, des ingrédients jusqu'à la fin, le packaging y compris. Donc le stockage, etc. Donc c'était vraiment un processus de A à Z. Le produit, il est zéro, et puis jusqu'à tout son process de fabrication, de conditionnement, packaging, etc. C'est pris en compte. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est pas une personne qui regarde la liste des ingrédients et qui dit, ouais, ok, ça vient d'où ça? Ça vient de tel fournisseur. Je fais, oh, bah, ok, c'est bio. là, vraiment, on s'est embêté, Yann s'est embêté à faire tout ça, où c'est vraiment de A à Z. Ça couvre tout le process de production. Et c'est ce qui nous a fait aller vers ce label plutôt qu'un autre.
Et tu peux nous en parler un petit peu plus du fin de process de fabrication, parce que tu viens de mentionner les emballages et le stockage. Qu'est-ce que vous faites de différent qui est respectueux de la planète ?
Alors nous, le packaging, on n'a que le packaging primaire, on n'a pas de packaging secondaire, ça c'est obligé. Mm-hmm. On conditionne dans des bouteilles en verre, on a des boîtes en aluminium. Pour les savons, on a un petit bandeau en carton. Et après, tout ce qui est pour l'expédition, on a des pochettes 100% recyclées. On a fait un partenariat avec Boomerang, qui est le sachet d'expédition réutilisable plus de 100 fois, je crois.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est l'épisode 10 de mon podcast. Donc du coup, ouais, ça sera l'occasion effectivement de découvrir. Ouais, complètement. Bon, génial.
Et ça prend petit à petit ce sachet d'expédition Boomerang sur notre site internet. Et c'est marrant parce qu'en fait, bah, il pourra t'en dire un peu plus, mais chaque sachet est complètement différent. Et c'est un système qui est plutôt bien fait pour nous comme pour le client qui reçoit du coup sa commande. Et bon, tout ça vous découvrirez dans l'épisode avec Boomerang. Mais je pense que chez nous, ça faisait utiliser les sachets Boomerang, c'était une étape de plus dans zéro déchet dans notre boîte. Et je réfléchis encore au packaging, mais je crois que j'ai fait le tour.
Et le stockage, il y a quelque chose en particulier qui a été mis en place ?
Le stockage, non. Matières premières, il faut faire attention à certaines matières premières qui doivent être à une certaine température. Donc. D'accord. Tout ça a été géré. Après, le conditionnement, bah, nous, c'est encore en carton, à l'abri de la lumière et tout. Donc ça, avec les huiles essentielles, c'est important pour faire attention que ça soit pas au soleil, parce que le produit peut rincir. Tout ça a bien été pensé. Et je crois qu'on s'en sort pas trop mal, parce que on est quand même dans un tout petit local. Mais bientôt, on espère partir dans quelque chose de plus grand, parce que on souhaite bien se développer chez Into the Beard.
Bah, parlons des projets. Alors justement, quels sont les projets qui sont en cours pour lesquels tu peux nous en parler dès maintenant? En amont de l'épisode, tu me disais qu'il y avait peut-être un déménagement, parce que d'ailleurs tu disais que tu étais au fond de l'entrepôt et que tu avais quand même particulièrement froid. Je crois que c'est la semaine la plus froide de l'année.
Très clairement.
Quels sont les différents projets et qu'est-ce qui va être mis en place?
Ce qu'on souhaite, nous, c'est... comme je l'avais dit, on veut produire nous-mêmes. Et si on veut produire nous-mêmes, on peut trouver un petit coin de table pour faire des huiles, pour faire des baumes. Mais puisqu'on a vraiment envie de se développer, il nous faudrait vraiment un plus gros espace, un vrai laboratoire, on va dire, pour produire tout ce qui est des coiffants, des savons, des huiles, des baumes et tout. Et aujourd'hui, on n'a pas trop cet espace-là. On est trois. Il y a mon associé Yann et puis on a une alternante en commercial. Et ce qu'on veut, nous, c'est vraiment se développer. Donc, potentiellement partir à Passy, qui est en bas de la vallée, qui est à 10 minutes de chez nous, dans un espace, une sorte de pépinière d'entreprise. C'est un projet qui va se faire. Bon, c'est top secret, mais là, j'en ai trop dit, je crois.
Mais
c'est trouver, en fait, une sorte de, entre guillemets, salle blanche pour faire un laboratoire. Et nous, avoir un espace bureau un peu plus grand pour qu'on puisse agrandir l'équipe. Et ce qui est intéressant dans cette salle blanche, c'est que en fait, c'est une entreprise qui est une très grosse entreprise, qui a trop d'espace pour elle. Du coup, ils vont mettre en location à des entreprises. Mais eux, ils sont dans la métallurgie, dans la plasturgie. Et ils emploient des personnes avec un faible handicap mental. Et ce qui serait intéressant pour nous aussi, c'est de pouvoir de travailler avec eux. Parce que quand on fait une production de 1000 unités, par exemple, il faut refermer les bouchons, il faut faire les étiquettes, il faut faire le conditionnement. Yann ne pourra pas faire ça tout seul. Moi, ça me prendrait énormément de temps. Et donc, c'est de faire marcher un petit peu l'économie sociale, je ne sais pas comment appeler ça, mais de, de travailler avec eux et de faire de participer à cette économie. C'est un peu notre engagement social aussi, ça, de faire travailler ce genre de d'entreprise et on le fait déjà pour nos présentoirs. Nos présentoirs qui sont en bois upcyclé, c'est des palettes, des anciennes palettes. C'est une entreprise qui fait ça à Annecy, une entreprise de mobilier, on va dire, qui récupère dans les chantiers du bois, des palettes, des bois de terrasse, etc. Ils en font du mobilier. Donc c'est ce qu'on a fait dans notre boutique, nos bureaux, ils sont faits tout à base de, c'est du mobilier upcyclé. Et tout ça, ça a été fait avec, pareil, une entreprise qui fait de la réinsertion sociale avec des personnes avec un faible handicap. Et c'est quand même important pour nous de faire travailler ces gens-là. Et le travail a toujours été bien fait. On a visité les ateliers. C'est génial, quoi, comme expérience. Et je pense que voilà.
Ouais, c'est pas que un impact environnemental, mais c'est aussi travailler pour plus d'inclusion. Donc votre démarche, elle est.
C'est ça, et c'est à chaque fois, c'est des petits ateliers. C'est des petits ateliers, c'est encore de l'artisanat, quoi. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'on n'a pas un énorme groupe qui font nos produits, quoi. C'est vraiment, on recherche que l'artisanal, quoi.
D'autres projets, ouais, vas-y.
Non, tu peux continuer.
Ouais, je disais en termes d'autres projets, donc là tu parlais de cette salle blanche. Est-ce que du coup il y a aussi une volonté d'étoffer la gamme de produits? Est-ce qu'on peut la faire grandir à l'infini? Parce que les produits de sang pour barre vont peut-être pas non plus inventer des nouveaux besoins, puis surtout quand on s'inscrit dans une démarche responsable, il faut aussi juste répondre à un besoin et peut-être pas en créer des nouveaux. Donc en fait, comment on va se développer la marque? Bon, certainement en termes de conquête de nouveaux clients, mais du coup, en termes de gamme et autres projets, qu'est-ce que tu peux aujourd'hui nous raconter d'autre?
Nous, on essaye de répondre aux besoins des coiffeurs barbiers, puisque c'est notre première cible. Mm-hmm. On est très attentif sur leurs demandes. S'ils veulent des coiffants, s'ils veulent des produits pour le visage, quelle texture ils veulent, quelle senteur ils veulent. On essaye d'avoir le plus d'avis différents. On est très proche de nos clients aussi. On a un réseau de clients à Annecy, à Albertville et tout. On est très proche d'eux, donc on est très à l'écoute. Faire que du soin de la barbe ou du rasage, à un moment, on va se péter la gueule. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment les écouter. Et eux, aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, c'est des coiffants naturels et bio. Donc ça, c'est la prochaine chose qu'on va faire. Non, t'as raison.
C'est... Donc, tous les soins pour l'homme, finalement, quoi.
Bah ouais. Après, voilà, il y a. J'espère que ça va pas, la tendance cosmétique homme, je pense qu'elle va toujours être là, mais on espère quand même que au moins la barbe et le rasage, ça diminue pas. Je pense ça sera toujours le cas. Je me rappelle encore ma mère qui m'a dit quand je lui ai dit que j'allais travailler pour Into the Beard. Elle était là, elle fait non mais Adrien, la barbe dans 2 ans c'est terminé. Bon. C'est pas le cas, mais je pense que ça va rester encore longtemps. Mais clairement, si nous on veut se développer, si on veut prendre notre pied, on va dire, c'est de développer d'autres produits qui sont aujourd'hui des coiffants. Les coiffants. Et après, pour s'amuser encore un petit peu, vu qu'on a un laboratoire, on peut imaginer d'autres marques. Donc peut-être toucher une cible féminine ou des cosmétiques pour des bébés. La pire des idées qu'on a eues, c'est de faire peut-être des cosmétiques pour des chiens. On sait pas, pour des animaux. Ou pour les hôtels. Enfin, on a plein. Maintenant qu'on a un laboratoire, on a plein de possibilités. Et un autre projet qui nous tient à cœur, c'est de faire un barbier. Tout simplement. Pourquoi pas de faire un barbier into the beard. Toujours avec nos valeurs. On essaie d'avoir un mobilier upcyclé. Si on n'arrive pas à trouver, bon, on va aller chiner dans les brocantes un canapé, un siège, on sait pas quoi. Mais on veut faire, nous, dans 6 mois, par exemple, un barbier et qui dit l'année prochaine qu'on en refasse un deuxième, un troisième, et un quatrième, et franchisé, je sais pas. Mais développer nos valeurs via un barbeur, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant.
Bon, en tout cas, plein de projets en cours. J'ai l'impression que si je te laissais encore plus de temps, tu auras encore plein d'autres idées.
Ah ouais, non, ça fuse, ça en a partout.
quelle est ta vision à toi d'un monde meilleur ?
Monde meilleur, que tout le monde soit barbu, comme ça on puisse on puisse vendre beaucoup plus de produits. Non, comment dire, ma vision, enfin,
qu'est-ce que t'aimerais, sinon je te la reformule, qu'est-ce que t'aimerais toi changer dans le monde pour qu'il soit, meilleur ou plus conforme à tes valeurs ?
Moi, j'ai déjà mes valeurs, elles ont énormément changé grâce à la boîte. J'avais une consommation. Enfin, moi, je vois la différence dans ma consommation de tous les jours, dans mon quotidien. On fait beaucoup plus attention. On va voir. C'est par exemple ce qui est bête. Moi, j'adore la viande et tout, mais avant, tu peux acheter du sous vide, etc. Bah là, je sais pas. J'ai pris. Je fais beaucoup plus attention, on va chez le boucher, on va faire le marché tous les jeudis matin avec Yann pour la semaine, on fait marcher les petits producteurs locaux, comme nous on fait marcher les artisans avec Into the Beard. Je pense que Into the Beard, ça a eu un bon impact sur mon quotidien. Moi j'achète du vrac. Bon, je viens à pied parce que j'habite à 200 mètres, mais si je pouvais, moi je viendrais en vélo, quoi. Tout ça, c'est des petites choses au quotidien où si tout le monde fait ça, petit à petit, peut-être qu'on sera dans un monde meilleur. C'est de faire attention à consommer français, à consommer en vrac. C'est tout bête, ça met un peu de temps à mettre en place pour certains. Moi, ça a été un peu une évidence au bout d'un moment. Plus j'évolue avec ITB, avec Into the Beard, et plus ma consommation a changé. Mais c'est des petites choses. Et si tout le monde fait ça, bah, ces petites choses commencent à devenir de plus en plus grandes. Et c'est simple à mettre en place, en plus. Donc, merci Into the Beard de m'avoir fait changer sur certaines choses. Je ne suis pas parfait. Non, ça a eu un bon impact. Ça a eu un bon impact. Ouais. Surtout que Yann avait déjà cet aspect-là. Et on échange énormément, et puis petit à petit, je commence à faire du vrac, je commence à composter, je peux pas, j'aimerais bien, mais je suis en appartement, donc j'y arrive pas encore. Ouais. Mais après, quand je rentre chez mes parents dans le Jura, et que je leur dis, bon, un peu tout ce que je fais, j'ai chez le boucher, etc., et mes parents, ils sont là, ils font, mais t'as un peu changé quand même. Je dis, et eux, petit à petit, ils commencent à faire pareil. Ils ont un compost, ils font du vrac, le tri, ils regardent vraiment comment ça marche, etc. Petit à petit, voilà. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement, comme on dit.
Bon, bah super. Effectivement, j'allais te poser la question de tes gestes green, mais du coup, tu l'as. Tu as répondu, et c'est marrant de voir comment... du coup, les valeurs de l'entreprise ont pu on va dire, transpirer sur ton univers personnel. Et du coup,
on fait aussi des
initiatives que tu as mises en place. Ouais.
Et on fait aussi très attention au bureau aussi, dans notre façon de consommer, le café, les gobelets, on n'en a pas. C'est tous des tout petits détails que moi, je voyais lorsque j'étais en alternance à la SNCF, chez Renault Trucks. C'est tous des petits détails que je voyais, genre les gobelets en plastique, la fontaine à eau et tout, et déjà là je commençais déjà un petit peu à m'améliorer sur ça. J'ai une bouteille réutilisable, j'ai toujours ma tasse avec moi et tout, et après forcément quand on arrive ici, il n'y a pas de plastique, le café, c'est du café grain qui est torréfié à Chamonix à côté de chez nous, pareil, voilà, le café il vient de chez nous aussi. Mais ouais. On fait vraiment attention, et puis forcément quand tu fais attention au travail, à un moment ça se répercute dans ta vie perso, et tant mieux.
Ouais.
Moi je souhaite que beaucoup plus d'entreprises fassent ça, quoi, surtout dans les grands groupes. Et c'est ce qui m'a aussi permis de me décider quand j'ai arrêté mon alternance, de me dire ouais, non, les grands groupes c'est pas trop fait pour moi. Je préfère largement être à mon compte, et puis voilà, Into the Beard s'est pointé, et puis voilà, quoi. Zéro regret, que du kiff.
Bon, bah, génial, merci pour avoir partagé toutes ces valeurs et puis tes gestes inspirants du quotidien.
Merci.
Je crois qu'il est temps maintenant qu'on passe au quiz. Est-ce que tu es prêt ?
Allez, c'est parti.
Alors, pour rappel, le quiz consiste en te donner une série de questions avec à chaque fois un choix A ou B. Et l'idée, c'est que tu puisses répondre le plus spontanément possible par l'une ou l'autre des réponses, sachant qu'il n'y a aucun jugement dans les réponses que tu pourras apporter.
Ouais.
Voilà, comme ça, je te mets à l'aise tout de suite, quoi. Alors, si tu n'as rien dans ton frigo, tu es plutôt McDo ou Too Good To Go ?
Too Good To Go, j'en ai beaucoup fait quand j'étais à Lyon. Parce qu'on avait la possibilité de faire ça, et ici on peut pas, et le McDo il est à 20-30 minutes.
Et... Donc, mais pas non. Le choix.
Non, je ferai Too Good. Certaines des boulangeries et tout, de temps en temps, elles laissent à bas prix le reste de la journée, donc moi je fais ça. Donc du coup, Too Good.
Top. Le lundi, t'es plutôt steak frites ou veggie Monday?
Oh, steak frites. je fais énormément d'efforts, mais le steak frites quand même lundi, en plus ce week-end, week-end ski, voilà, ça fait toujours plaisir.
Pour faire tes cadeaux, t'es plutôt Amazon ou Emmaüs? Ou seconde main en général d'ailleurs?
Ouais, seconde main, je commande beaucoup sur internet malheureusement, mais beaucoup de produits, des produits made in France, je fais très attention à ça maintenant. Depuis le début de l'aventure. Amazon, non. Mais sinon, commander Made in France, ouais.
Ok, top. Et enfin, avant de t'endormir le soir, est-ce que t'es plutôt Netflix ou un bon bouquin ?
Oh, Netflix. Netflix, ouais. Un bon bouquin, ouais. Ça m'a... Pendant le confinement, ouais. Mais sinon, maintenant, c'est Netflix.
Ok, super. Bah écoute, merci de t'être prêté au jeu du quiz et de nous avoir transporté dans l'univers des Alpes à la découverte de votre très belle marque. Est-ce que tu peux nous rappeler le site internet sur lequel on peut retrouver la marque pour les particuliers ?
Alors c'est www.intothebeard.com. Into the Beard,
donc B-E-A-R-D. C'est B-E-A-R-D, c'est ça.
Exactement.
Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Adrien pour cet entretien. Et puis écoute,
merci à toi.
Un plaisir de rester en contact.
Mais avec grand plaisir. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to2re.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.